Je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. Mon père est peintre bâtiment et ma mère est secrétaire de direction dans une boîte d'import-export. J'habitais dans le sud, sur la Côte d'Azur. J'ai insisté auprès de mes parents pour pouvoir faire des études agricoles. Du coup, je suis allée dans la Drôme passer mon BEP agricole, ensuite mon bac pro et ensuite je suis arrivée dans l'Indre pour passer mon BTS agricole. On a cherché avec mes parents une exploitation, une ferme à vendre dans le coin où je pourrais élever des chèvres et faire du fromage. Et nous avons trouvé la ferme ici à Bille, donc ça fait 12 ans. Dans la région, avoir 170 chèvres, c'est plutôt une petite exploitation. Après, pour une personne seule, en transformation fromagère, c'est énorme. Les deux premières années, c'était assez, comment dire, facile, entre guillemets, parce que je touchais les subventions. J'avais mon compagnon de l'époque qui m'aidait hors de son travail pour les gros travaux de la ferme. Tout allait bien, les chèvres avaient du lait. Sauf que les factures s'entassaient dans ma paperasse, je n'ouvrais pas mon courrier. Et puis, je me suis séparée de mon compagnon de l'époque. J'avais la transformation fromagère qui est arrivée. Mes fournisseurs qui n'étaient pas payés, qui commençaient à réclamer ce que je leur devais. De 2009 à 2013, j'étais au-dessus de ma vie, quoi. Je travaillais comme un robot, je faisais ce que je devais faire, je m'occupais de mes animaux. Sauf que financièrement, j'ai jamais pu payer un salarié. Et quand j'ai eu digéré ma rupture avec mon compagnon de l'époque, je me suis inscrite sur des sites de rencontres. Donc en 2013, il y a un homme qui me contacte sur ce site de rencontres. Et donc là, va s'engager un dialogue entre nous deux pendant presque 3 ou 4 mois. Des mails très longs, très bien écrits, et on s'est rencontrés. Donc du coup, au Salon de l'Agriculture. On a bu, on a bien mangé. Et alors moi, j'étais encore plus sous son charme. Et quand il a fallu partir, alors là, moi, je serais restée avec lui toute la nuit au Salon de l'Agriculture. Et ça semblait être réciproque parce qu'il avait l'air d'être très bien avec moi aussi. Donc voilà, c'était une première rencontre réussie. Très vite, il a arrêté de travailler. Et il a déménagé, il est venu habiter ici. Donc les premiers mois de son installation ici, c'est l'homme dont j'ai toujours rêvé. Moi j'en ai plein les yeux. Mais quand même, insidieusement, il me pousse toujours un peu à bout parce qu'il sait que je suis quelqu'un de très impulsif, qui n'aime pas l'injustice. J'ai une grande empathie, mais j'ai aussi beaucoup de caractère. Donc en fait, il essaye des fois de me pousser à bout et ça peut pas passer. Et donc du coup, moi, je m'agace. Et là, il arrive un moment où, 5 mois après notre rencontre, il me dit « Ah, tu veux jouer au bonhomme ?» Il m'attrape par les épaules, il me colle contre le placard en bois chez moi et avec ma tête, je casse le placard en deux. Et là, en fait, je suis sidérée. J'étais tellement persuadée que ça pouvait pas m'arriver à moi, parce que je suis quand même quelqu'un de fort. Et je me dis, mais il a dû avoir un excès de, je sais pas, de colère ou un problème. Et après la sidération, je lui pardonne. Plus ça va, et plus il souffle le chaud et le froid. Un coup, il va être le vrai prince charmant avec moi, il va me faire des bons petits plats. Il va être au petit soin avec moi, il va me mettre sur un piédestal auprès de ses amis. Et un coup, pour une petite broutille, il va me dénigrer. Tout ce que je fais, c'est pas bien. Et là, la violence physique, elle va recommencer en fait quand j'attends mon premier enfant. J'étais enceinte de 5 mois. Et il m'a étranglée sur la table là. Et je lui ai dit « Arrête ». Je dis, tu t'imagines que t'es en train d'étouffer ton fils dans mon ventre, quoi. Plus ça allait, plus c'était régulier et souvent. Il y avait rarement des traces. C'était me menacer, me mettre la pression, me tirer par les cheveux, donc aucune trace. Une fois que mon enfant Milo était né, j'ai voulu une fois aller chez les gendarmes. Il a pris mon fils et il l'a mis derrière les roues de mon camion pour m'empêcher d'aller à la gendarmerie. J'ai regardé dans mon rétro, j'ai vu l'image de mon fils placé derrière les roues de ma voiture. J'imagine que si j'avais reculé, il l'aurait enlevé. N'empêche que rien que le geste de faire ça, c'est horrible, quoi. Moi, du coup, ça commençait à se ressentir aussi sur mon travail à la ferme. Je faisais le strict minimum pour que mes chèvres soient en vie, quoi. Mais sinon, ça s'arrêtait là. J'avais plus assez de production pour faire la traite et puis pour fournir les AMAP. Et la demande de redressement judiciaire, elle est intervenue quand j'ai, pas longtemps après que j'ai rencontré donc le père de mes enfants. Le redressement judiciaire, il aurait dû m'aider à sortir la tête de l'eau et à redresser l'exploitation. Et en fait, pas du tout. Ma vie privée et ma chute, la chute de ma ferme, bah c'est lié, quoi. La première fois que j'ai fait venir le gendarme, on était dehors. Il a voulu m'enlever mon fils, Milo. Donc il a pris dans les bras et il a voulu partir à pied. À l'époque, il n'avait pas de voiture. Et je le suivais. Et à un moment donné, ça l'énervait tellement que je le suivais, je ne le lâchais pas, qu'il s'est retourné et il m'a redonné mon fils. Et il m'a chopé par les deux oreilles et il m'a éclaté la tête contre la voiture qui était dehors. Et j'avais mon fils dans les bras. Et en relevant la tête, ma tête a cogné contre la tête de mon fils. Et là, c'est lui qui a appelé les gendarmes, c'est même pas moi, en disant que je voulais pas le laisser rentrer dans la maison pour récupérer ses affaires. Et le gendarme a demandé à me parler. Et il m'a dit, mais attendez, il y a un enfant là qui pleure, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je lui ai raconté, et il dit, je vous envoie une patrouille de pompiers et une patrouille de gendarmerie. Et je suis partie aux urgences. La gendarme qui s'était occupée de moi ce jour-là me donne le nom d'une personne qui s'occupe au niveau du département des violences conjugales. Et je contacte cette personne. Elle m'a orientée vers la plainte, mais ça a été long. Alors j'ai déposé 5 plaintes pour coups et blessures, vol. Et elles ont toutes été classées sans suite pour faute de preuves. Il a toujours nié les coups. Enfin, et ça, la personne que j'avais été voir, elle me l'avait dit. Elle m'avait dit, malgré tout, il faut quand même à chaque fois appeler les gendarmes qui viennent. Alors, à chaque fois, les gendarmes, ils étaient dépités. Hein. Moi, à la fin, ils me disaient presque qu'ils ne viendraient plus, quoi. J'ai été voir une association à Blois qui s'occupe aussi de la prise en charge. L'association a fait un signalement préoccupant auprès du procureur. Et j'ai porté plainte il y a 2 ans, l'été 2017. Et cette plainte-là, par contre, pour l'instant, elle est toujours en cours. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais elle n'a pas pour l'instant été classée sans suite. Et en avril 2018, la juge aux affaires familiales a ordonné une ordonnance de protection qui mentionnait qu'il n'avait plus le droit de prendre contact de quelque manière que ce soit avec moi ou mes enfants. Et depuis... il est parti. Il s'est évaporé. Je n'ai plus jamais eu aucune nouvelle de lui. Et il n'a plus jamais donné de nouvelles à ses enfants. Aucune pension alimentaire. Le problème, c'est qu'il a toujours l'autorité parentale. Même s'il ne s'occupe pas du tout de ses enfants, il a l'autorité parentale. Donc je suis censée lui demander son autorisation pour beaucoup de choses. Donc... une fois l'ordonnance de protection lancée, je renais de mes cendres, entre guillemets, par rapport à l'exploitation. Je cherche des solutions pour la sauver vraiment, quoi. Et alors, au début, je voulais presque vraiment une nouvelle vie. Donc voilà, je voulais partir. Et puis, en fin de compte, je cherche à m'associer. Et c'est là que j'ai rencontré Agnès sur Facebook, sur une page de paroles d'agricultrice face à la crise. Elle était ouvrière agricole pendant quelques années. Puis elle a vu à un moment donné que je mettais pas mal de publications parce que je suis un peu engagée à ce niveau-là, au niveau de la violence conjugale. Et elle m'a raconté son histoire. Et elle a vu mon annonce concernant ma recherche d'associé. Elle m'a demandé si elle pouvait convenir. Et comme elle avait un grand besoin aussi, je pense, de changer de vie, quoi, je suis allée la chercher avec un camion de déménagement. Et elle est partie comme ça du jour au lendemain, presque sans prévenir personne. On veut s'associer, on a des idées communes au niveau du travail de l'exploitation. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un projet de financement participatif afin de racheter des chèvres pour que notre association puisse se faire. Et là, en fait, l'idée m'est venue d'accueillir ces victimes-là et leurs enfants, parce qu'il en manque dans notre région. Et quand on n'a nulle part où aller, on reste chez soi. Et voilà, ça me tient à cœur. C'est vraiment un projet que j'espère qu'il verra le jour. On aura besoin de l'aide d'autres associations et de l'aide de beaucoup d'autres professionnels, des psychologues, des forces de l'ordre, parce que faut que l'endroit soit sécurisé aussi, parce que ces hommes-là, souvent, ils lâchent pas l'affaire si facilement, ils reviennent à la charge. Des juges, des assistantes sociales, enfin, c'est un travail de longue haleine qui n'est pas si facile à mettre en place. En fait, je revendique mon droit de rester paysanne sur ma ferme que j'ai créée depuis 12 ans et tous les jours je me bats pour ça. Donc en parallèle, pouvoir donner le droit à des femmes de fuir et de rester en vie.